enfin ce que c'est que la paléopathologie. Je vous ai pris en photo devant la... Je n'ai pu résister devant la fiche Celtoquet, parce qu'on a eu une exposition sur ce sujet. Vous êtes un véritable enquêteur de l'archéologie. Et aussi, on sent aussi votre passion pour ce sujet. Et je me disais qu'il vaut mieux mourir en bonne santé ou alors, en fait, en mauvaise santé pour vous apporter des éléments d'investigation, parce que c'est vraiment de l'investigation. Il y a un côté aussi passionnant.
Oui, il y a un côté...
Enfin, des histoires, et puis et on est aussi, aussi très sensible au fait, le fait que vous parliez du handicap, en effet, oui.
Je parle devant un public dans lequel se trouvent des historiens, des vrais historiens. Moi, je ne suis pas un historien. Je contribue à l'histoire parce que je suis un archéologue, mais je n'ai pas personnellement de formation d'historien. Donc je suis toujours un petit peu gêné en disant, pour moi, c'est de l'histoire. Bon, parce que... Mais quand même, je n'hésite pas à le dire, parce que c'est une autre façon de faire de l'histoire, mais je pense que c'est aussi une façon de faire de l'histoire. Ça s'inscrit, il y a une très bonne complémentarité. Et d'ailleurs, j'évoquais... on a vu la fosse d'Alain Fournier. Ben, maintenant, comme Luc le disait, je forme des gens à l'archéologie funéraire. Et maintenant, on commence à avoir des demandes. J'ai une de mes élèves qui a été recrutée par le tribunal pénal international pour exhumer des cadavres en Bosnie ou des choses comme ça. Et ça s'ouvre. Et là, on sait très bien qu'il faut une compétence archéologique. L'histoire contemporaine se nourrit normalement des archives, qu'elles soient écrites, qu'elles soient audiovisuelles. Mais dès que vous avez des crimes contre l'humanité, dès que vous avez des éliminations arbitraires d'opposants... Ben, il faut bien s'attendre à ce que les archives soient soit détruites, soit falsifiées. Et donc là, on rejoint complètement les enquêtes médico-légales. Là, on y est en plein. Hein. Enfin, c'est...
C'est...
Bonsoir. J'aurais aimé connaître l'âge de la dame qu'on a retrouvée en Corse.
Alors, quand j'ai fait cette étude, j'étais... j'étais médecin au CHU de Montpellier, enfin, je terminais, et je n'étais pas encore au CNRS. Et à l'époque, j'avais appris qu'on pouvait déterminer l'âge à partir des sutures crâniennes, etc. C'est-à-dire que j'avais dit que cette femme avait à peu près 45 ans. Aujourd'hui, l'anthropologie a fait des progrès considérables. C'est-à-dire que nous ne savons plus déterminer l'âge d'un adulte avec une telle précision. C'est-à-dire que nous pouvons dire un adulte jeune. Bon, jusqu'à 30 ans, on a des marqueurs de croissance. Bon, ça va bien, si le squelette est suffisamment complet. Ensuite, on a adulte d'âge moyen, puis adulte âgé. On n'a pas la sénescence du squelette... est un processus extrêmement variable d'un individu à l'autre. Ce n'est pas une jeune femme, vous vous en doutez. Elle peut avoir eu 40 ans, mais elle peut très bien avoir eu 60 ans ou 70 ans. Et finalement, on ne sait plus déterminer l'âge d'un individu. Alors, si vous regardez les feuilletons télévisés, Bones, etc., alors là, eux, ils vous disent que c'est... Les légistes sont plus précis que nous parce qu'ils travaillent sur des populations dont la croissance et les conditions de vie sont beaucoup plus stéréotypées. Nous devons évidemment avoir des références qui tiennent compte de la variabilité entre les groupes humains, entre les conditions de vie, les conditions d'alimentation, etc. Donc malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas une jeune femme, ça c'est évident. Maintenant, est-ce que c'est une femme d'âge... Si vous me demandez si elle était ménopausée, je ne suis pas capable de vous le dire. Non, mais à Pompéi, j'ai des cas de femmes pour lesquelles je sais qu'elles étaient ménopausées parce qu'elles sont complètement déminéralisées. Elles ont beaucoup d'arthrose et la déminéralisation est telle que très, très probablement, il faut penser à un facteur endocrinien. Pour elles, je n'en sais rien. Là, je n'ai pas d'éléments qui... Ça serait intéressant de savoir... ce genre de choses, mais...
Voilà. Là, oui, c'est vrai, ce serait surtout pour ces populations-là, mésolithiques, néolithiques, par rapport justement à la structure sociale. Et comme on sait que cette femme-là était handicapée, qu'elle était prise en charge par ses, ses proches, enfin ses proches, je sais pas,
oui,
la
enfin,
structure
le
familiale,
groupe.
Mais bon,
oui,
le groupe. Oui. Et justement, savoir si c'est des individus plutôt jeunes ou alors si on garde, enfin si on garde. Oui, pourquoi pas,
oui,
on
oui.
débarrasserait des personnes âgées.
Oui, vous savez, la néolithique grabataire et incontinente, jeune ou pas jeune, ça devait représenter énormément de travail et énormément de... Avec, enfin, nous savons qu'il n'y avait pas de possibilité de récupération. Eux ne le savaient peut-être pas, je n'en sais rien, mais... Voilà, non, le polytraumatisé, c'est apparemment un type assez âgé. Ce qu'il y a, c'est qu'elle, je ne sais pas à quel moment elle a eu son traumatisme. C'est longtemps avant le décès. Elle était adulte, ça je le sais. En revanche, si elle est morte à 50 ans, ça peut être entre 20 et 50, hein, à n'importe quel moment. Donc, ça, là, vous touchez du doigt les limites aussi de nos connaissances. Il faut accepter de ne pas tout savoir. Oui?
Attendez, monsieur, je suis obligée de vous donner le micro.
Quelles étaient les raisons des trépanations?
Alors, évidemment, on ne le sait pas puisqu'ils ne nous ont pas laissé de texte. Ça, c'est le premier point. À quoi sert la trépanation? Je dirais qu'il y a deux justifications essentielles. La première justification, c'est évidemment une voie d'accès quand on veut faire de la neurochirurgie. Quand on voulait faire maintenant avec les microsondes, etc., bon, c'est autre chose. Mais jusqu'à une date récente, bon, évidemment, si vous vouliez faire une intervention sur l'encéphale, il fallait ouvrir un volet pour accéder au cerveau. Bon, ça, les neurochirurgiens pratiquaient les trépanations. Bon, je crois qu'on peut penser raisonnablement que la neurochirurgie, la micro-neuro, même si les mésolithiques avaient des microlithes, ce n'était pas pour faire de la microchirurgie cérébrale. Bon, je ne pense pas vraiment à ça. En revanche, si vous avez un processus qui se développe au niveau du cerveau, dans la boîte crânienne, qui gagne en volume, ben, la boîte crânienne, c'est une boîte inextensible. Donc, la pression augmente. Et puis, tout d'un coup, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un engagement, c'est-à-dire que la pression est telle que le cerveau essaie de sortir par l'autre occipital. Et vous avez le bulbe rachidien qui se coince. C'était très classique, quand vous avez un accident de la voie publique, quelqu'un tombe à une perte de connaissance, un choc sur la tête, une perte de connaissance. On vous dit qu'il faut hospitaliser et il faut que la personne soit gardée pendant quelques jours avec un électroencéphalogramme. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une toute petite fêlure, pas visible à la radio, mais avec une petite déchirure d'une artère. Et l'artère saigne entre la méninge, la dure mère, et la paroi crânienne. Et l'hématome grossit. Petit à petit, il exerce une pression sur le cerveau. La personne pourra, hypertension intracrânienne, les signes, une céphalée très intense, des douleurs, des maux de tête très intenses, une photophobie, la personne qui craint la lumière, une raideur de la nuque et souvent des vomissements brusques, comme ça. C'est le syndrome méningé. Ça se réveille, et bien sûr, crise d'épilepsie, qui est un signe de souffrance de l'encéphale, simplement. Il peut y avoir des causes multiples. Et parfois, autrefois, quelqu'un avait pris un choc comme ça. Bon, puis il reprenait connaissance, ça va bien, il repartait. Et puis, une semaine après, tout d'un coup, paf, il mourait. C'était l'engagement, c'est-à-dire que l'hématome avait fini par claquer et le cerveau passait à travers. Donc là, la trépanation, c'est tout simplement la soupape de sécurité. C'est-à-dire que si vous ouvrez, la méninge va faire saillie. Alors évidemment, si c'est une tumeur cérébrale, la tumeur continue à se développer et elle peut aboutir à l'exitus de l'individu. En revanche, s'il s'agit d'un phénomène transitoire comme une hémorragie, l'hémorragie finit par s'arrêter, l'hématome se résorbe et puis c'est fini. Là, ça a sauvé. On reconnaît quelques trépanations sur fracture du crâne. Donc, il est possible. Alors, on a aussi des exemples ethnographiques qui n'ont pas valeur de démonstration. Mais on sait que quand des gens ont pu interroger des personnes qui pratiquaient ces trépanations empiriques, eh bien, quels étaient les signes? L'épilepsie et des douleurs de tête très intenses. Avec cette image, bon, il y a un démon dans la tête, on ouvre une fenêtre pour que le démon s'en aille, enfin, on a parfois des représentations comme ceci. Il n'est pas impossible qu'il y ait donc eu une connaissance par l'observation, je dirais une mise en relation et que les gens aient trépané Apparemment, dans quelques cas, ils ont trépané à bon escient. Maintenant, très sincèrement, sur le rebord des côtes du Larzac, ou bien ils se flanquaient régulièrement des coups sur la tête et alors il fallait trépaner souvent, parce que vous avez des individus qui ont été trépanés. Il y en a un qui a été trépané 4 fois, quand même. Voyons, on n'a pas, évidemment, on est sur des périodes sans texte, donc on n'a pas d'éléments. On a quand même quelques éléments qui nous orientent. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu des trépanations qui aient réellement eu une valeur curative. Voilà.
Attendez, madame, parce que c'est des questions. Ouais. Je passe le micro.
Il pourrait y avoir des trépanations quand elles étaient importantes, comme ça, comme sur des sites à caractère rituel.
Bon, c'est possible. Vous savez, de toute façon, dans certaines sociétés, les personnes qui pratiquent ces gestes peuvent avoir aussi une fonction religieuse, peuvent avoir... Donc, on peut l'imaginer. Le fait de trouver effectivement une rondelle de trépanation perforée, portée en pendentif, peut-être que c'est un geste banal, purement esthétique, et peut-être qu'il y a une connotation. Malheureusement, on n'a pas de représentation. Si on avait des représentations de trépanation au cours de cérémonies ou de choses comme ça, on pourrait... Là, malheureusement, c'est tout à fait envisageable, l'hypothèse que vous évoquez. Mais en même temps, nous sommes... évidemment, si trépanaient tous ceux qui avaient mal à la tête un jour, on aurait tous un trou, tous au moins un trou dans le crâne. Mais enfin, bon. Donc, je ne peux pas vous répondre parce que je ne le sais pas, tout simplement.
Moi, je veux savoir, au niveau des sépultures, là, est-ce qu'il n'y aurait pas des traces de feu, des fois ?
Dans les sépultures ?
Oui, de l'époque, je parle.
Ça dépend. Alors, évidemment, pour les crémations, oui, bon, sans doute. Mais des traces de feu, pourquoi ? Vous voulez dire pour... parfois, oui. Alors, parfois, les feux sont à côté, parfois, les feux sont avant, parfois, les feux sont après. Il y a des sépultures pour lesquelles on n'en a pas. Évidemment, dans les contextes d'incinération... c'est une évidence. Mais parfois, les bûchers sont à l'extérieur de la tombe. Parfois, on a les tombes bûchers, ce que parfois on a appelé boustoum, c'est un mauvais terme, mais avec une fosse à l'intérieur de laquelle on allume le bûcher et le mort brûle dans la tombe et on ferme la tombe, parfois en déposant des offrandes. Donc, des traces de feu. Là, le problème, c'est que vous avez vu, j'ai fait un grand galop un peu dans toutes les... avec des incursions un peu dans toutes les périodes. Et donc, je ne peux pas vous répondre. Ça n'a pas une valeur uniforme. Il y a des sépultures dans lesquelles on a des feux. On n'a pas de notion particulière de feu, je dirais, pour tuer les germes ou des choses comme ça. Disons que, par exemple, je ne connais pas pour l'instant de charniers de peste sur lesquels on ait fait ensuite des très grands feux ou des choses comme ça. Parce que c'est une des questions qui se pose. L'autre problème, c'est que, par rapport à ça, souvent, on voit mentionner de la chaux. Et le problème, c'est que dans bien des cas, quand les analyses ont été faites, ce n'est pas de la chaux, c'est du plâtre. Il n'y a pas du tout la même fonction. Et notamment, Dominique Castex, dont je vous ai parlé, fouille en ce moment, enfin, avec la commission pontificale d'archéologie sacrée, une catacombe à Rome. Et dans cette catacombe, il y a probablement plusieurs milliers de morts. Mais... déposé simultanément. Je veux dire, c'est un secteur très, très particulier de la catacombe, mais les individus sont déposés ensemble, mais ils sont enveloppés dans du tissu qui est parfois conservé ou dont les traces sont marquées. À l'intérieur, il y avait le cadavre, mais le cadavre était avec du plâtre et parfois de l'ambre pilée et enveloppé. Quand on a vu du blanc partout, de la poudre blanche, on a dit, bon, c'est de la chaux, il y a énormément de cadavres, c'est de la chaux. L'analyse a montré que ce n'était pas de la chaux, que c'était du plâtre. L'ambre, bon, c'est par rapport aux maladies infectieuses. Enfin, on a des textes dans l'Antiquité. Le plâtre, on ne sait pas. Des feux.
Oui, dans les sépultures préhistoriques.
Alors, par exemple, dans la grotte de Corcone, oui, on a des feux. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi la nécessité de s'éclairer. Quand vous êtes dans le monde souterrain. Donc, on a des foyers. Et, oui, on a des feux qui fonctionnent. On a même des braseros. On a des vases dans lesquels on sait qu'ils ont mis des braises parce qu'on a un recuit qui est interne. Et on en a même trouvé avec des charbons, etc. Il y a des choses comme ça. On n'a pas, en tout cas, on n'a pas de feu sur les morts dans ces grottes-là. Voilà.
On a beaucoup travaillé ces dernières années en histoire médiévale ou moderne sur la lèpre. Est-ce que la paléopathologie a aussi amené des avancées sur ce domaine-là ?
Alors, amener des avancées, oui et non. Je veux dire par là que la lèpre, c'est une maladie bien connue. C'est une maladie... on a quand même beaucoup d'indices. Il y a des textes. Et puis, bon, évidemment, il y a des toponymes évocateurs d'une maladrerie, etc. Enfin, bon, des lazarets, des... Bon, il y a des cimetières de maladrerie qui ont été fouillés. Alors, le problème est... Moi, je pense qu'une des questions historiques serait de savoir si tous les gens qu'on a dans ces cimetières étaient des lépreux ou pas. Bien sûr que très probablement non. Hein. C'est quand même le problème des lésions commençantes, des lésions très caractéristiques qu'on en a. Mais ça pose aussi des problèmes de fouilles. Moi, j'ai été appelé à une expertise sur un chantier d'archéologie préventive en France. Dans un endroit qui s'appelait Lazaret, ou Saint-Lazare, je ne me rappelle pas. Bon, il y a quand même déjà, on se dit, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose ? Or, les sujets étaient couchés sur le dos et ils étaient avec la tête très légèrement surélevée. Conclusion, quand les archéologues fouillaient, les fosses avaient été repérées et ils descendaient évidemment à la truelle. Et d'une manière tout à fait inconsidérée, ils commençaient la fouille par une extrémité, qui était l'extrémité de la tête, parce que c'est là qu'ils allaient arriver le plus vite sur le squelette et repérer le niveau du squelette. Ils voulaient descendre. Le problème, c'est que le premier coup de truelle passait là. Pardon. Et la lésion osseuse la plus précoce dans la lèpre touche l'épine nasale antéro-inférieure. C'est-à-dire que la méthode de fouille que les archéologues avaient choisie pour arriver au niveau du squelette, au premier coup de truelle qui rencontrait l'os, détruisait de manière définitive la possibilité de diagnostic précoce de la lèpre sur les squelettes. Là, je vous garantis que la personne qui se prétendait anthropologue et qui s'était fait recruter sur le chantier n'a pas continué l'archéologie funéraire. Parce que je pense que c'est inadmissible quand on recrute quelqu'un qui a une spécialité, qui prétend avoir des compétences, si la personne n'est même pas capable de se renseigner sur la lésion, c'est-à-dire qu'on fouille un cimetière de léproserie, enfin, présumé de léproserie, qu'est-ce qu'on attend du dégagement des os ? Ben, évidemment, d'abord, une discussion de la lèpre. Enfin, donc, il y a, on a des centaines, enfin, il n'y en a pas énormément hein, de cimetières de lépreux qui étaient fouillés. Je sais que Damien Jeanne a travaillé sur quelque chose. À un moment, Toiti s'était excité, mais je crois qu'il n'a pas. Je ne sais pas s'il a. Je crois pas qu'il ait fouillé. Enfin, il avait parlé de ça à un moment. Il y a des choses qui ont été. Trouvées. On a des. Christian Thoreau à Tours a fouillé. Il m'a montré des squelettes qui étaient. Manifestement avec des lésions typiques de lèpre, quoi. Mais je ne sais pas exactement. Pour l'instant, on n'a pas la finesse de diagnostic. Quand les lésions sont très avancées, on n'a pas de problème de diagnostic pour dire c'est une lèpre. Mais dire qu'il y avait des lépreux dans les léproseries, c'est pas une découverte gigantesque. Quoi. Ce qui serait plutôt intéressant, c'est de dire, de savoir quelle était la proportion de gens qui étaient atteints ou pas atteints, ou des choses comme ça. Et là, on n'a pas peut-être encore la finesse du diagnostic.
La durée de leur présence.
Oui, mais ça, c'est très difficile parce que le problème, là j'ai travaillé récemment avec quelqu'un qui s'appelle Joël Coste, qui est directeur d'études à l'EPHE, qui est un épidémiologiste, qui a succédé à Daniel Gourevitch, et qui travaille notamment sur les hôpitaux militaires. Et alors, sur les archives, il épluche tout ça. Et on voit très bien que les types viennent, mais éventuellement repartent et reviennent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent se faire enterrer là, mais qui, pour autant, n'y étaient pas tout le temps. Donc la durée du séjour, moi, je ne sais pas si... voir le mort dans la tombe nous parle de la durée du séjour de l'individu à l'intérieur. Ça, ce sont plutôt les sources. Je pense que ce sont des choses que nous ne serons jamais en mesure de traiter.
Qui sont également ambiguës, en général. Hein ? Qui sont également très ambiguës, en général.
Oui, peut-être. Mais là, tu abordes une chose dont j'imagine que nous serons toujours incapables. Hein, je ne sais pas très bien comment on peut... Nous, on voit un état final. Le squelette nous raconte une partie de la vie de l'individu. Hein, le squelette enregistre des maladies, des séquelles de maladies. Maintenant, alors on peut dire, oui, il a été entretenu, il a été alimenté, il a été immobilisé, il a été... Mais après, entre le moment où le type a réparé sa fracture et le moment où il est mort, qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais rien. Et malheureusement, je ne le saurai pas. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur. On est obligé d'arrêter. Merci beaucoup.
Je vous en prie.